Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphitas. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle année 2023 déjà. Eh bien, bonne année à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bien sûr, la santé, le fait de créer des choses, le fait d'être heureux, le fait d'être bien entouré, le fait d'avoir des projets, de pouvoir les accomplir, le fait que tout se passe bien, le fait de nous écouter également régulièrement, nous écouter tous les samedis, par exemple, entre 12h et 13h, ou tous les mardis matins à 10h, pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. C'est Biotine donc, qui démarre cette année 2023. Je m'appelle Jean-Noël. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette année en encore. On a démarré en 2008 cette émission sur l'antenne de Graphite et ça se poursuit parce que l'actualité scientifique, elle ne s'arrête pas. Il y a pas mal d'informations que nous allons pouvoir développer. C'est une année encore qui va être prometteuse. On sait très bien qu'il y a des sujets importants au niveau de l'énergie, au niveau de la mobilité, au niveau du dérèglement climatique, au niveau de la médecine également, au niveau des objets connectés, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous concerne, de tout ce qui nous touche également. Et on découvrira cela ensemble avec cette revue presse de l'actualité scientifique pour essayer d'aborder un petit peu tous les sujets qui nous concernent, qui concernent la science, la médecine, la technologie, la mécanique, l'énergie, le spatial évidemment. Le spatial sera un peu le fil rouge. Je vous ai dit que de toute façon, cette décennie sera géniale d'un point de vue spatial et on suivra bien sûr toute cette actualité. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2023, en 1610, le savant italien Galilée observe pour la première fois des petits astres autour de Jupiter. Et après 3 semaines d'observation, il comprend qu'il s'agit de satellites naturels de la planète géante gazeuse. C'était en 1610. En 1714, Henri Mill dépose le premier brevet pour une machine à écrire. En 1714, je ne pensais pas que c'était si ancien en fait. En 1785, toujours un 7 janvier, Jean-Pierre Blanchard et John Jeffries traversent la Manche de Douvres à Calais en 2h25 à bord d'un ballon gonflé à l'hydrogène. Plus proche de nous, 1910, Hubert Latham est le premier pilote d'avion à dépasser les 1000 mètres d'altitude. Enfin, en 1927, la première communication téléphonique internationale, c'est entre New York et Londres en 1927. Naissance le 7 janvier 1794 d'Ellard Mischerlich. C'est un chimiste et minéralogiste allemand renommé. Il effectue des recherches sur les composés à base de phosphore et d'arsenic et sur les dérivés du benzène. Et il va travailler justement sur la production de benzène en 1833. Donc le chimiste Ellard Mischerlich. Mischerlich. Je ne sais pas parler allemand. Pourquoi on m'impose cela déjà dès le début de l'année, ça promet. Décès le 7 janvier 1943 de Nikola Tesla. Ah, Tesla, c'est un nom qui nous dit quelque chose. C'est un inventeur et ingénieur serbe naturalisé américain. Il est connu pour son rôle prépondérant dans le développement et l'adoption du courant alternatif pour le transport et la distribution de l'électricité. Alors Tesla, il a d'abord travaillé dans la téléphonie et l'ingénierie électrique avant d'émigrer aux États-Unis en 1884 pour travailler notamment avec Thomas Edison, puis avec George Westinghouse, et il va enregistrer un grand nombre de ses brevets. Il est considéré comme l'un des plus grands scientifiques dans l'histoire de la technologie pour avoir déposé quelques 300 brevets découvrant au total 125 inventions qui seront pour beaucoup attribuées à tort à Edison et également pour avoir décrit de nouvelles méthodes pour réaliser la conversion de l'énergie. Tesla est reconnu comme l'un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et en fait, lui, il préfère se définir comme étant un découvreur. Ses travaux les plus connus, les plus largement diffusés, portent donc sur l'énergie électrique. Il a mis au point les premiers alternateurs permettant la naissance des réseaux électriques de distribution en courant alternatif, dont il est l'un des pionniers. Tesla s'est beaucoup intéressé aux technologies modernes, se focalisant sur l'électricité qui était le noyau de ses inventions. Et de son vivant, Tesla a été renommé pour ses inventions. ainsi que pour son sens de la mise en scène qui fait un petit peu de lui l'archétype du savant fou, entre guillemets. C'était un grand humaniste qui se fixait comme objectif d'apporter gratuitement l'électricité dans les foyers et de la véhiculer sans fil. Alors, il demeura toutefois relativement méconnu pendant plusieurs décennies après sa mort, mais son œuvre entraîne un regain d'intérêt dans la culture populaire depuis les années 1990. Alors, son nom a quand même été donné à l'unité internationale d'induction magnétique, le Tesla, et en 2003 est créé un constructeur automobile novateur de voitures électriques. Le nom Tesla a été choisi en référence à Nikola Tesla, qui est donc décédé le 7 janvier 1943 à New York. Alors, au niveau de l'actualité, dans ce que l'on peut trouver, on va parler d'espace, mais d'une façon assez particulière. C'est la NASA qui a annoncé, c'était en fin d'année dernière, le lancement de sa mission destinée à étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Dans le même temps, le département américain de la Défense a remis un nouveau rapport sur les objets volants non identifiés, les fameux OVNI. Il a remis ce rapport au Congrès américain et sa version déclassifiée sera rendue publique. Alors, sur les images de centaines d'observations enregistrées ces dernières années, il n'y a pas un extraterrestre en vue, nous dit-on. Les experts du département américain de la Défense dévoilent que plusieurs OVNI, plusieurs phénomènes aérospatiaux non identifiés récents ont ainsi pu être rattachés à des survols de drones de surveillance chinois relativement ordinaires ou même à des encombrants de type ballon météorologique. D'autres ont pu être expliqués par des illusions d'optique, nous dit-on. Ce serait notamment le cas de l'une des plus fameuses vidéos d'OVNI rendues publiques ces dernières années, en 2018 précisément. La vidéo que les réseaux sociaux connaissent sous le nom de GoFast, elle a été enregistrée par un avion de la marine américaine. Le mouvement ultra rapide de l'engin un moment supposé extraterrestre ne serait ainsi qu'illusion, le résultat de l'angle d'enregistrement par rapport à l'eau, nous dit-on, et l'engin tout à fait terrestre en question ne dépasserait aucun moment les 48 km/h, donc on nous dit que ça serait une illusion optique. Les responsables du département américain de la Défense reconnaissent que la plupart des OVNI restent classés comme non identifiés, mais seulement par manque de données. C'est donc tout le travail des experts que de réussir à collecter suffisamment d'informations autour de ces observations pour faire la lumière en toute transparence, mais dans la limite toutefois de ce qui pourrait mettre en danger la sécurité nationale, nous dit-on. Donc voilà, il y a beaucoup d'objets non identifiés, mais il y a aussi des appareils chinois qui ont été, on a pu savoir finalement que parmi ces phénomènes un peu étranges qu'on avait observés, il y avait quand même des drones chinois dans l'histoire. Et oui, que voulez-vous ? Mais c'est aussi une autre forme de guerre, bien évidemment. C'est aussi comme ça que ça se passe. Allez, Biotine ne changera pas sa philosophie, c'est-à-dire un peu de science, mais aussi un peu de musique. Nous sommes aussi sur Graphite. We'll be right back.
des pépins pour les travailleurs, pour les chercheurs, pour les éducateurs, des pépites pour les dictateurs, les manipulateurs, pour les spéculateurs, des pépins pour les prolétaires, pour les protestataires, les révolutionnaires, des pépites pour le nucléaire et dans les ministères, des pépites. Pero así desde el principio, los pobres no pueden vivir como lo quieren y nada jamás cambiará eso. Ni la voluntad, ni los sueños, ni las revoluciones. Pero es así desde el principio. Los pobres no pueden vivir como lo quieren y nada jamás cambiará eso. Pero es así desde el principio. Los pobres no pueden vivir como lo quieren y nada jamás cambiará eso. Ni la voluntad, ni los sueños, ni las revoluciones. Pero es así desde el principio. Los pobres no pueden vivir como lo quieren, pero juntos sí que lo cambiaremos. Pero juntos lo cambiaremos.
Pardon, j'écoutais, j'étais bien, je crois qu'elle était sympa cette chanson des Pépins, c'est le groupe Ma Valise, et je n'ai pas du tout fait gaffe, je me dis tiens, ça va reprendre, mais non, pas du tout. Vous écoutez bien titre sur l'antenne de Graphite, l'année démarre bien. Bon, alors, deux choses qui n'ont aucune... comment dire, aucun rapport l'un après l'autre, mais comme on est dans une revue de presse d'actualité scientifique, on feuillette comme ça et on tombe sur des articles, notamment cet article de Futura Science qui nous met en garde avec cette étude menée conjointement par deux universités australiennes qui s'est intéressée aux microplastiques libérés par le téflon. Le téflon, c'est ce revêtement anti-adhésif utilisé pour que les poêles et les casseroles ne collent pas lorsque l'on cuisine. Et à force d'utilisation et de lavage, eh bien cette couche de téflon s'effrite. Or, il s'agit d'un polymère de plastique qui justement fait que ça libère une substance toxique pour la santé et l'environnement. Selon les scientifiques australiens, une seule brèche à la surface du téflon libère déjà plus de 9000 particules plastiques dans l'environnement et jusqu'à 2,3 millions de micro- et nanoplastiques sont libérés lorsque le revêtement est complètement abîmé. Ces chiffres ont été obtenus en utilisant un microscope laser pour prendre des images des poils et puis un algorithme qui a été utilisé pour estimer le nombre de microparticules présentes alors que les scientifiques reproduisaient l'utilisation d'une poêle en téflon avec un ustensile en inox. Étant donné que ces polymères représentent un gros problème, eh bien ces microplastiques de téflon dans notre alimentation pourraient constituer un problème de santé qui doit être étudié car nous ne savons pas grand-chose à propos de ces nouveaux contaminants, c'est ce qu'a déclaré Chen Feng, le chercheur à l'université de Newcastle, qui est notamment l'un des principaux auteurs de cette étude. Et donc ces substances particulières qui sont des substances per- et polyfluoroalkylées qu'on appelle des PFAS, eh bien elles sont présentes partout sur la planète, de l'Antarctique au sang humain. Les sources de contamination sont nombreuses, elles n'incluent pas seulement les poêles en téflon. Ces substances peuvent être présentes dans l'eau de boisson, dans des aliments conditionnés avec une matière contenant ces fameux PFAS, dans des vêtements par exemple, le Gore-Tex est proche du téflon, nous dit-on. Dans la consommation de produits animaux contaminés par exemple aussi, ça peut être possible. Et chez les humains, eh bien, ces PFAS sont présents en petite quantité dans le sang, de l'ordre du nanogramme par millilitre. Donc c'est vraiment l'infiniment petit, mais ça existe. Et du coup, voilà, ces poêles anti-adhésives en téflon libèrent des millions de microplastiques quand on cuisine. Et c'est assez inquiétant parce que, quelque part, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on écoute ce genre d'information, alors qu'on utilise ces poêles en téflon depuis un certain temps. Et alors, est-ce qu'il y a eu déjà eu des articles assez similaires qui n'ont pas eu autant d'impact? Mais voilà, une nouvelle étude, deux études australiennes en fait, qui confirment un petit peu ce que l'on pressentait déjà. Autre chose, un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial de l'UNESCO vont disparaître d'ici 2050. 2050, c'est rien, c'est demain, entre guillemets. Et cela, quel que soit le scénario climatique, c'est ce qu'alerte l'organisation de l'ONU qui appelle à rapidement réduire les émissions de CO2 pour préserver les deux tiers restants. L'étude porte sur plus de 12 000 glaciers. Ça représente à peu près 66 000 km² au total répartis sur 50 sites du patrimoine mondial, soit 10% de la surface glaciaire totale de la Terre, qui sont représentatives de l'état des glaciers mondiaux. C'est ce que précise l'UNESCO dans un communiqué qui a été publié il y a quelques semaines. Selon le rapport du GIEC paru au printemps dernier, la fonte des glaces et des neiges est l'une des 10 menaces majeures causées par le réchauffement climatique. Les glaciers du patrimoine mondial fondent à raison de 58 milliards de tonnes de glace par an, soit le volume d'eau utilisé annuellement par la France et l'Espagne, contribuant en tout ça à l'élévation mondiale du niveau de la mer. C'est ce qu'explique l'UNESCO, c'est des chiffres faramineux bien évidemment. Cet atlas mondial de plus de 200 000 glaciers oblige les scientifiques à revoir les estimations des stocks d'eau glaciaire. Les deux tiers qui ne disparaîtront pas forcément pourraient être sauvés si nous limitons le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est ce qu'explique l'ONU. La conférence de l'ONU sur le climat qui s'est tenue, on le sait, lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh, et justement, ça permettait de pouvoir sensibiliser sur cette information. Bon, c'est ce que ça a donné, hein. C'est-à-dire pas grand-chose en fait. Mais voilà, on est là encore à un appel à une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. L'UNESCO demande la création d'un fonds international pour la surveillance et la préservation des glaciers. C'est véritablement inquiétant ce qui est en train de se passer. Je pense que, alors pas toutes les semaines, mais presque dans cette émission, on relate des articles scientifiques qui donnent là encore une illustration catastrophique de ce qui est en train de se passer au niveau du réchauffement climatique. Et donc là, cette information, c'est qu'un tiers des glaciers va disparaître d'ici 25 ans. 25 ans, c'est rien à l'échelle de l'humanité. Donc on voit très bien qu'on est dans une phase exponentielle très dangereuse qui est totalement... c'est assez inéluctable, entre guillemets. Donc il va falloir réagir, sauf que on a un peu l'impression que ce qui se passe au niveau international, au niveau des gouvernements, ce n'est pas nécessairement... efficace et ça ne produit pas des effets véritablement tangibles. Affaire à suivre, bien évidemment. Allez, on écoute The Beyonders sur l'antenne de Graphite.
Given me the strong belief that I really am the one you believe.
Curriculum, c'était The Beyonders sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur 94.9 et graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, c'est Biotine tous les samedis, l'actualité scientifique. Et on parle un peu d'archéologie parce que c'est une vraie prouesse d'ingénierie. Un tunnel rocheux de 13 mètres de profondeur a été découvert sous le célèbre site de Taposiris Magna en Égypte, à 45 km de la ville d'Alexandrie. Une région où plusieurs équipes d'archéologues sont déployées pour mettre en lumière l'histoire locale par le biais de leur campagne de fouilles. L'annonce donc de la découverte par une équipe égyptienne et dominicaine de ce tunnel de 1305 mètres de long et 2 mètres de haut intéresse particulièrement les chercheurs puisqu'il représente un miracle géométrique. La découverte a été annoncée par le docteur Mostafa Vaziri du Conseil général, secrétaire général pardon, du Conseil suprême des Antiquités d'Égypte. Une telle découverte est intéressante en de nombreux points parce qu'il s'agit d'une découverte unique sur place, très encourageante et surtout elle permet de faire des parallèles avec des sites grecs. Il y a donc plusieurs missions internationales dont une française qui travaille à mieux comprendre au fil des fouilles l'histoire et la chronologie des villes de la région. La mission de la dominicaine Kathleen Martinez avait déjà fait parler d'elle l'année en 2021 avec la découverte de plusieurs momies dont certaines ayant des amulettes en forme de langue en or dans leur bouche. On en avait parlé dans cette émission. Il y a de nombreuses autres découvertes qui ont été faites par les équipes internationales travaillant sur place puisque la ville aurait été fondée sous le règne de Ptolémée IV, mais cela n'exclut pas une présence antérieure à déterminer lors de futures recherches. La région porte les traces de grands changements culturels liés aux nouvelles influences s'imposant au cours des années en Égypte à ces époques. Toute la difficulté des fouilles de cette ville réside dans le fait que des parties sont submergées par les eaux, ce qui a été le cas du tunnel récemment découvert. Et pourtant, l'eau douce se trouvait au cœur de ses fonctions antiques, puisqu'il permettait d'acheminer de l'eau pour 15 000 ou 20 000 habitants. Et face à une construction aussi impressionnante, le lien a été rapidement fait avec un autre site très similaire, celui du tunnel de Palinos à Samos, en Grèce. À l'annonce de la découverte, le tunnel du site de Taposiris Magna est rapproché dans ses dimensions et dans son usage donc à ce tunnel de Palinos qui est considéré comme un chef-d'œuvre technique et d'ingénierie. Ce tunnel avait également pour vocation de permettre un approvisionnement en eau douce sur l'île de Samos. Un autre point commun entre le site de Samos en Grèce et le site de Taposiris Magna en Égypte, c'est le principe de la sismicité parce que un tel terrain n'est jamais très encourageant pour retrouver des éléments en élévation dans son ensemble. En revanche, cela permet en archéologie de déterminer des événements survenus dans le temps et l'impact de ces derniers dans le paysage de l'époque. Autant de raisons qui rendent la découverte de ce tunnel encore plus intéressante. Lors des relevés archéologiques du tunnel, dans des sédiments et de la boue humide, il y a des tessons de céramique qui ont été trouvés ainsi que des petites têtes en albâtre. Ces dernières ont été attribuées à des personnages de haut rang, d'après l'archéologue en chef. Il faut dire que derrière la mise à jour du tunnel, eh bien Kathleen Martinez espère d'autres découvertes. En effet, depuis plusieurs années maintenant, l'archéologue envisage de découvrir la tombe de Cléopâtre, rien que ça, qui n'a pas été trouvée à l'heure actuelle. Une quête qui n'est néanmoins pas partagée par tous les acteurs du monde égyptologique, bien sûr. En attendant cette hypothétique découverte aux pistes encore fragiles, eh bien les différentes campagnes de fouilles sur le site permettent de mieux comprendre l'organisation spatiale de ces villes antiques. Et ici, donc, par exemple, leur approvisionnement en eau douce. Mais là, une découverte exceptionnelle d'un long tunnel sous un temple en Égypte. Il y a des images que vous pouvez trouver sur Internet qui sont totalement fascinantes pour ceux qui aiment l'archéologie, qui aiment l'Égypte, bien sûr. Aucune transition avec l'autre information qui, pour la première fois, explique une maladie génétique rare qui a été traitée avant la naissance à l'aide d'une thérapie de remplacement d'enzymes et donc directement dans l'utérus. La réussite est le fruit d'une collaboration entre l'Université de Californie à San Francisco et l'hôpital d'Ottawa au Canada. Et les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue The New England Journal of Medicine. La maladie de pompe infantile qui touchait le fœtus est l'un des nombreux troubles lysosomaux rares ça touche moins d'une naissance sur 100 000. Et en fait, ça peut endommager gravement les principaux organes avant la naissance. Il s'agit en fait d'une maladie génétique liée à un mauvais fonctionnement d'une enzyme qui va décomposer le glycogène en glucose. Et le glycogène s'accumule alors dans l'organisme, ce qui entraîne une faiblesse musculaire progressive. Et les bébés atteints par cette maladie ont un cœur hypertrophié. Ils meurent le plus souvent à l'âge de 2 ans s'ils ne sont pas traités. Et la maladie est appelée la maladie de surcharge lysosomale car l'enzyme défaillante est localisée au niveau du lysosome et les patients atteints de maladies de stockage lysosomal à début précoce sont des candidats idéaux pour une thérapie prénatale, donc avant la naissance, car les dommages aux organes commencent à l'intérieur, bien sûr, de l'utérus. Le dépistage très précoce a permis la mise en place dans l'utérus d'un traitement enzymatique substitutif sur la base de précédents résultats qui avaient été obtenus, qui avaient été réussis chez la souris. Et les chercheurs ont donc obtenu l'approbation accélérée de l'administration américaine pour un essai clinique sur 10 humains, puis ont testé le traitement sur un patient éligible. Et ce sont les parents d'Eila qui ont découvert que leur enfant, qui était encore un fœtus à ce moment-là, était atteint de la même maladie génétique que celle qui a coûté la vie à deux de leurs enfants. Les chercheurs rapportent la consanguinité des parents dans leur étude. Et à l'hôpital d'Ottawa, Eila a reçu 6 traitements prénataux par remplacement enzymatique. Elle est née à terme. Elle a maintenant donc un peu plus de 16 mois. Elle suit un traitement enzymatique post-natal et parce qu'elle doit recevoir des perfusions intraveineuses toutes les semaines pendant toute sa vie. Mais en tout cas, les chercheurs misent sur les progrès de la recherche pour s'en passer par la suite. Et donc, après avoir reçu un traitement enzymatique substitutif à l'intérieur de l'utérus et un traitement ensuite quand elle est née, eh bien la patiente présente des fonctions cardiaques et motrices normales après la naissance. Et donc, c'est totalement... ça se passe bien, en clair. Les chercheurs rapportent un traitement sûr pour la mère, pour le fœtus, ainsi qu'une efficacité dans la réduction des dépôts de glycogène. Et donc, d'après les chercheurs, il s'agit d'une étape importante vers des thérapies plus curatif qui pourrait être administré avant la naissance. C'est vraiment ça qui est important dans cette information. Ça peut être la thérapie génique également qui pourrait être mise en place à l'intérieur de l'utérus. C'est totalement fascinant et pour l'instant, ça semble bien se passer et c'est tant mieux, bien évidemment. C'est ça, hein, biotine, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des sujets qui touchent aussi à l'intime et qui permettent d'avoir un peu d'espoir, ça nous fait du bien. 2023, ça sera l'année de l'espoir.
Je t'aime une seule fois, idiot. Tu as trop usé ces mots-là. Arrête donc de gémir. Oh, dis-moi, quand vas-tu grandir, idiot? Tu crois qu'il faut tout dévoiler? Il faut garder des secrets. Je te lis comme un livre ouvert. T'es plus transparent que du verre. Tu ne sais pas comment tourne le monde. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des blondes. Dans des soupirs.
Idiot, Joe Wedding et Jean Felsine sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis à partir de 10h pour la rediffusion. L'émission Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Et ça vous permet voilà, de vous tenir informé de ce qui se passe dans l'actualité des laboratoires, quel que soit le sujet scientifique. Hein, c'est la science au sens large. Et si on parlait d'une tortue marine qui a la taille d'une voiture, qui va nager tranquillement dans les eaux il y a environ 80 millions d'années, c'est le tableau que viennent de reproduire des paléontologues à la suite de la découverte dans les Pyrénées espagnoles des restes fossile d'une tortue aux dimensions totalement hors normes, une tortue géante de la taille d'une voiture. Jusqu'à présent, le plus grand spécimen fossilisé de tortue marine avait été découvert en Amérique du Nord. Il faisait déjà 4,60 mètres pour environ 3 tonnes. Eh bien, ce monstre faisant partie du genre Archelon aurait vécu à la fin du Crétacé. Jusqu'à présent, aucun spécimen découvert en Europe n'était capable de rivaliser avec lui. Mais les restes découverts sur la localité de Cal Torades, nous sommes au sud-est des Pyrénées espagnoles, eh bien, pourraient bien laisser penser que dans cette partie du globe aussi, des tortues géantes arpentaient les eaux chaudes de cette mer bordant la partie nord du bloc ibérique avant la formation de la chaîne de montagnes des Pyrénées. Il s'agirait cependant d'une nouvelle espèce jusqu'à présent inconnue. Alors, on l'a dénommée, et là je me lance dans le nom, Leviata nocellis aenigmatica. C'est une tortue qui aurait mesuré donc près de 4 mètres de long. Elle aurait vécu au Campaïen, c'est à la fin du Crétacé. Et le fossile mis à jour entre 2016 et 2021 n'est cependant pas complet. Il consiste en un fragment de pelvis et d'une partie de carapace. C'est en se basant sur la taille des os du pelvis que les scientifiques ont pu estimer l'envergure originelle du spécimen. Les résultats ont été publiés récemment dans la revue Scientific Reports. Alors jusqu'à présent, les tortues fossiles retrouvées en Europe n'excédaient pas 1,50 m de long. Et en comparaison, ce nouveau spécimen fait donc office de géant et se positionne parmi l'une des tortues marines les plus grandes jamais retrouvées. Près de 4 mètres de long. C'est énorme en fait, on ne se rend même pas compte pour une tortue. On est tellement habitué à voir ces petites tortues qui font quoi, 20-25 cm de long, et là font 4 mètres. Je ne sais pas, ça doit être impressionnant. Regardez sur internet, vous avez quelques images. Alors, c'est des fragments, donc on n'a pas le, comment dire, la représentation globale de la tortue, mais ça nous donne quand même une estimation des dimensions qui est quand même assez impressionnante. Autre chose, et là, c'est une information assez sérieuse à prendre vraiment, à écouter avec attention. Ça concerne le cannabis, qui est le produit illicite le plus consommé en France. Presque un adulte sur deux en a déjà consommé. Alors, ce cannabis jouit d'une image positive, surtout auprès des jeunes. Il serait moins toxique que la cigarette parce qu'il serait plus naturel, c'est-à-dire qu'il serait dénué de produits chimiques et de goudron. Et bien pourtant, il est fumé sans filtre, contrairement aux cigarettes. Et de plus, il y a un certain mode de consommation du cannabis qui incite à inspirer très profondément et à garder très longtemps la fumée dans les poumons. Et qu'en est-il vraiment ? Et bien, une équipe qui s'est penchée sur les effets du cannabis sur l'appareil respiratoire en les comparant aux effets du tabac, et leurs résultats ont été publiés dans la revue Radiology. Il y a 146 personnes qui ont été incluses dans cette étude. Il y a à peu près un tiers de fumeurs de cannabis, un tiers de non-fumeurs et un tiers de fumeurs de tabac. Grosso modo, c'est à peu près ça pour pouvoir faire des comparaisons. Il y a des radiographies pulmonaires de chacun des participants qui ont pu être analysées. Et la fréquence des emphysèmes, c'est l'une des complications au niveau des bronches. Eh bien, la fréquence de ces emphysèmes a été comparée entre les différents groupes. Et on peut arriver à avoir des complications de type obstructive, c'est-à-dire que les alvéoles pulmonaires sont progressivement détruites. Et donc dans l'emphysème, ces zones mortes se détendent en augmentant de volume, ce qui va comprimer la cage thoracique. Eh bien, on s'est rendu compte que ces fameux emphysèmes étaient plus fréquents chez les fumeurs de cannabis que chez les non-fumeurs, ok, mais pas plus fréquent que chez les fumeurs de tabac. En revanche, dans une analyse en sous-groupe restreint selon l'âge, eh bien, les emphysèmes étaient plus fréquents chez les fumeurs de cannabis que chez les fumeurs de tabac du même âge et que chez les non-fumeurs du même âge. C'est-à-dire que quand on a fait par tranche d'âge, on s'est rendu compte que le fumer du cannabis serait plus nocif pour les poumons que le tabac. Alors que dans le tabac, on rajoute des cochonneries, entre guillemets, en plus. Eh bien, cette étude montre que le cannabis pourrait être plus nocif. Il y a d'autres indicateurs de l'inflammation des voies respiratoires qui ont pu être étudiés grâce aux radiographies pulmonaires. Le taux d'épaississement bronchique, ils étaient tous plus élevés chez les fumeurs de cannabis que chez les fumeurs de tabac. Une des limites de cette étude est que certains fumeurs de cannabis étaient aussi fumeurs de tabac. De plus, le cannabis se consomme souvent mélangé à du tabac. Enfin, il n'a pas été fait de différence entre les différents types de consommation de cannabis. Tout ça veut dire que cette étude doit quand même être approfondie pour être un peu plus prise en considération. Il n'empêche que cette donne, en fait, ces premières informations sont un peu surprenantes, on va dire, parce qu'elles sont un peu en contradiction avec ce qu'on aurait pu penser. Et puis, des recherches plus approfondies, c'est assez compliqué dans le sens où elles sont difficiles à mener du fait que le cannabis est illégal dans de très nombreux pays. Et donc, on ne peut pas nécessairement avoir une étude de grande envergure, étant donné qu'on est en train de voir quelque chose qui est totalement prohibé. Mais voilà, on aurait pour l'instant des premières informations qui tendraient à penser que le cannabis serait plus nocif pour les poumons que le tabac. On sait très bien ce que ça veut dire. Faites attention, bien évidemment. Vous serez informé avec cet article. On se retrouve juste après Seth et Match sur l'antenne de Graphite.
Léger vent de l'est, canicule, piscine altitude. Le chill est un genre de sieste. Je connais pas, je te parle pas de thèse. J'aurais peur de me perdre. Je rappe le soleil, je suis focus, ne change pas de terme. Pour être peinard, j'éteins le téléphone. Peu de taf, pas d'oseille. Pour clipper, bébé, on squat chez les potes. Je vais danser ta meuf, c'est pour ça que t'es vénère. C'était match, un bap, tout de tiers. Plaque et déter, toujours la même. Devant le barbecue, tout le monde s'agite. Silence, on se lèche les babines. Quand on mange, on s'applique. Rassasié, confiné, tous au tapis. Chaise longue, digestion, sous le soleil, tout le monde abdique. Tranquille, derrière mes rébans, je mate. Le boule des copines, j'en profite tant que personne ne me capte. Je fais des siestes, n'écoute que des sons de barge. Ici le sud, on parle fort, mais nous aimons le calme.
Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Juste un bout de plage, un besoin de s'exiler. Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Pour une fois qu'on a l'occasion, on va pas la laisser filer.
Hey yo, j'suis calé dans des lolos. J'fais que me gaver d'air pur. J'ai pas retrouvé mon mojo. Vu que je l'ai jamais perdu. Négro et je chill. La flemme au bout du fil. En train de converser et de vanner sur le boule d'une fille. J'ai le goût du filtre. Je smoke et passe tout mon temps à mater des as. Négro, c'est la life des CDMATCH. Et c'est dans cet état que je respire un peu ivre de vivre. Je livre des textes. Ouais, j'aime lâcher des phases. Tu nous connais. C'est cool, mais honnêtement, si tu chill avec nous, faut pas que t'aies peur de zoner. Je disparais petit à petit comme un glaçon dans un whisky sec. Mon esprit apaisé par l'odeur de la wiki sec. Je ne me lève, hop, ne réponds pas au tel. Nourriture et boisson comprises comme quand je pionce à l'hôtel. Une taille de soda fraîche, la bois au goulot, j'en quille. C'est comme ça que je transforme mes heures de boulot en chill.
Chill, chill, chill.
Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Juste un bout de plage, un besoin de s'exiler. Laissez-nous au calme. On va pas la laisser filer.
J'suis calé sur mon trône, allongé sur mon transat. J'prends une pause, non, c'est tout mon plan de quinze. Va, je chill au bord de la piscine. Dis-moi si j'rêve, j'ai l'image magnifique d'une petite île et de ses sirènes. Pas de coup de blues.
que des coups de soleil. Moment parfait, je n'ai même pas à ce que mon pouce se lève. La flemme a pris place, elle compte squatter tout le semestre. Je pisse, les gens se disent, il est cool ce mec. Flâner c'est de l'art, là je tiens le bon fil, on faut que je pédave. Que je boive un vœu d'île, on est exact. Le chill rend la ville, on fuse un fêtard. Je m'égare, j'ai des visions, elles s'échappent. La fumée de mes lèvres, elle est s'échappe. Douce et si sévère, mais quel spectacle. J'ai perdu la notion du temps, coincé entre rêve et réalité. Je suis dans l'espace, 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 l'espace. Je suis dans l'espace, 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 l'espace. Je suis dans l'espace.
Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Juste un bout de plage, un besoin de s'exiler. Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Pour une fois qu'on a l'occasion, on va pas la laisser filer.
Sunset, c'était 7 et match sur l'antenne de Graphite. Je vous parlais de cannabis et de tabac avant d'écouter 7 et match, justement. Et on le sait que le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France, avec 75 000 décès annuels en France consécutifs à l'inhalation de 400 substances toxiques que contient une seule cigarette. Mais les campagnes de prévention sur les risques du tabac fonctionnent selon Santé publique France, parce que le nombre de fumeurs par jour est passé de 29 à 25% en 4 ans, avec 30% qui ont déjà essayé d'arrêter cette année-là. Alors, y a-t-il un bon moment pour arrêter de fumer sans souffrir des conséquences de cette addiction toute sa vie? Il y a un groupe international de recherche qui a calculé le risque relatif de mourir, quelle que soit la cause, en fonction de l'âge auquel s'effectue l'arrêt du tabac. Et ils ont défini un âge minimum où ce risque est égal à celui des non-fumeurs. Plus un fumeur arrête de fumer tôt, plus il protège sa santé, ok. Et les scientifiques ont calculé qu'une personne qui a arrêté de fumer avant 35 ans n'a pas plus de risque relatif de mourir qu'un non-fumeur. En revanche, si cette décision est repoussée entre 35 et 45 ans, eh bien le risque relatif de mortalité de toute cause augmente de 21%. Et ça augmente de 47% quand on dépasse 45 ans et de 74% pour celles qui arrêtent après 55 ans. Ces calculs sont basés sur les données de 500 000 personnes collectées sur une vingtaine d'années et sur des hommes et des femmes d'origine ethnique diverse, âgés entre 18 et 84 ans au début de l'enquête. Donc c'est assez intéressant parce que justement ça permet d'avoir un panel assez exhaustif et ce qui nous permet d'avoir une précision dans les résultats. À l'issue donc de ces 20 années, c'était entre 1998 et 2018, eh bien il y a 75 000 personnes qui sont décédées parmi ces 500 000 personnes qui ont participé à l'étude. Elles étaient fumeurs ou non, hein, d'ailleurs. Mais les chiffres montrent que les fumeurs avaient plus de risques de mourir, quelle que soit la cause, que les non-fumeurs. Ils étaient aussi plus exposés à des maladies intimement liées à leur consommation de tabac, comme le cancer, les maladies cardiaques et pulmonaires. Alors, si arrêter le tabac avant 35 ans comme un objectif pour réduire la mortalité chez les fumeurs, ça apparaît comme un objectif assez intéressant, surtout s'ils ont commencé en étant jeunes. Cela, bien sûr, ne veut pas dire que tout est perdu après cet âge. Les scientifiques soulignent qu'arrêter la cigarette avant 45 ans réduit d'environ 90% la surmortalité associée au tabac. Donc, qu'importe l'âge, arrêter le tabac ne peut qu'être bénéfique pour la santé. C'est un petit peu la conclusion positive et optimiste de cette étude. Allez, on écoute encore un autre titre sur l'antenne de Graphite.
Je veux être obligatoire au bac pour que les gens parlent de moi. Comment était-il Barcela qu'ils analysent méthodiquement ma vie, mon œuvre, mon entêtement, et qu'ils m'apprennent je veux qu'ils se plaignent des heures durant, car il est vrai que c'est chiant d'apprendre ma vie. Je veux être obligatoire au bac, un sujet de 4 heures à l'écrit, coefficient indéfini. Les notes des grands hommes qui sont obligatoires au bac. Je prouverai au monde que je suis quelqu'un. Tu vois, maman, je m'en sors bien. Preuve que l'entêtement j'ai gagné. Et les sales moments sont passés. Et le sale mot, maman, a germé. Verrai-je mon rêve, maman, s'achever. Sujet au bac, à lauréat, parce que je le vaux bien, un sujet bâclé. Bien trop de fois, on n'y comprenait rien, rien.
Obligation au bac, Barcella sur l'antenne de Graphite. La concentration en spermatozoïdes, l'un des facteurs de la fertilité masculine, eh bien, cette concentration a nettement baissé à travers toute la planète au cours des dernières décennies. La concentration en spermatozoïdes a sensiblement diminué entre 1973 et 2018. C'est ce que résument les auteurs de ce travail paru il y a quelques jours dans la revue Human Reproduction Update, qui a été réalisé en compilant une quarantaine d'études préalables. Cette publication est d'une ampleur sans précédent sur le sujet, même si elle vient confirmer les conclusions d'une précédente étude de la même équipe qui avait été emmenée par l'épidémiologiste israélien Agai Levin. Cette étude, publiée en 2017, avait fait l'objet de plusieurs critiques, notamment parce que ses conclusions ne concernaient que certains pays appartenant tous au monde occidental. Cette fois, après avoir intégré davantage de données, les auteurs sont en mesure de conclure que la tendance à la baisse concerne aussi l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique. De plus, les données laissent penser que ce déclin mondial se poursuit à un rythme accéléré depuis le début du 21e siècle. La quantité de spermatozoïdes est l'un des facteurs qui jouent sur la fertilité masculine, mais il n'est pas le seul. Leur mobilité joue aussi un rôle crucial, et ça, c'est pas mesuré dans cette étude. Cette étude ne permet donc pas de conclure à un déclin général de la fertilité masculine, même si elle apporte des éléments dans ce sens, et s'inscrit aux côtés d'autres travaux qui ont plutôt étudié les causes de cette tendance. On soupçonne ainsi des raisons telles que l'obésité, un manque d'activité physique, la pollution et l'exposition à des produits chimiques dans l'environnement. C'est ce qu'a rappelé l'endocrinologue Chana Jayasena. Cet expert qui s'exprime justement, il a salué le travail important qui a été mené. Il y a eu d'autres chercheurs qui étaient déjà sceptiques quant à l'étude d'il y a 5 ans, qui ont nuancé les conclusions de cette nouvelle publication, estimant qu'elle ne résolvait pas toutes les insuffisances reprochées donc à la précédente étude. Je continue à douter de la qualité des études, en particulier les plus anciennes, sur lesquelles se base cette nouvelle analyse. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP l'andrologue Alain Passet, sans remettre en cause la manière dont les auteurs ont mené leur compilation. Selon lui, l'évolution du taux de spermatozoïdes pourrait en réalité refléter des techniques de plus en plus fiables de mesure et non la réalité elle-même. Bref, ils ne sont pas tous d'accord, mais on est quand même sur le constat d'une fertilité masculine en déclin partout dans le monde. Donc selon cette étude qui confirme un petit peu une tendance générale relayée par d'autres études également. Et donc l'étude israélienne a compilé un petit peu l'ensemble de ce qui existait au niveau de la littérature scientifique sur ce sujet-là. On n'en connaît pas pour l'instant les causes et ça méritera justement d'être un petit peu plus confirmé. C'est la fin de cette émission. Oh non, alors on va s'écouter un petit dernier titre. Allez, on s'écoute un dernier titre avant de se quitter sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre de tes principes, de l'importance que tu attaches à ce qui ballot dans ton slip si t'es déjà mort. Ça peut dépendre des petits cabots qui se déplacent pour venir parler à ta place. Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre du contour de mes fesses, à moins que ta connerie ne s'arrête sur la couleur de mon faciès. Ça doit dépendre si tu t'informes, si tu déformes à la télé, si t'es le plus laid de la fournée. Ça doit dépendre de tant de choses auxquelles on ne voudrait pas pourtant que ça dépende. Évidemment, ça doit dépendre des circonstances, pour peu qu'au bout de l'entretien y ait du travail pour le lendemain. Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre de quoi t'as l'air. Si ton habit ne fait pas le moine, si ton gourou fait tes affaires. Ça doit dépendre si tu préfères croire que ce sera mieux au ciel plutôt que t'éclater sur la terre. Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse pas là.
Ou le pire des salopards qui nous agressent, ça nous dépend.
Ça doit dépendre de quoi l'on parle.
Ça doit dépendre. Laurent Montagne sur l'antenne de Graphite. Et c'est avec Laurent que nous quittons, que nous terminons cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Sur graphite.net, vous avez aussi la possibilité de pouvoir récupérer toutes les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Donc comme ça, vous nous écoutez où que vous soyez, quand vous voulez. Et c'est très bien comme ça. On se retrouve samedi prochain, la rediffusion mardi à 10h. Et puis d'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt, au revoir.